السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, depuis à peu près deux mois, le monde économique, pour ne pas dire la population mondiale, vit une situation de crise sans précédent. C'est une situation de crise rarement atteinte dans l'histoire des pays développés. D'accord ? Et certaines personnes prononcent même ce mot tabou, ce mot qui fait peur, le terme de récession. C'est un mot qui effraie, qu'on soit PDG, qu'on soit chef d'une grande, une petite, une moyenne entreprise, qu'on soit un simple salarié, le terme récession, c'est un terme qui fait peur. C'est synonyme de pauvreté à long terme. Et cette crainte de la pauvreté, cette crainte de la chute du pouvoir d'achat, cela parfois entraîne des réactions qui peuvent aller jusqu'à l'extrême. Alors on va voir que ça a déjà commencé, mais d'ici quelques temps également, il y a des gens qui ont déjà acheté des coffres. Ils n'hésitent pas à retirer leur argent de la banque et à mettre leurs biens dans des coffres chez eux. Ou alors encore à échanger leurs devises contre des lingots d'or, de crainte que l'euro chute ou que le dollar ne vaille plus rien dans un an ou dans deux ans. Au moins, ils ont des louis d'or, voire des lingots d'or. Certaines personnes, vous allez voir, ça se passera si on ne s'en sort pas donc, de cette crise. Certaines personnes iront même jusqu'à faire des stocks de nourriture. Comme quand il y a des alertes cycloniques, acheter du riz, les denrées de première nécessité, de crainte qu'il y ait une situation de pauvreté telle qu'on ne trouve plus rien à manger. Ça, ce n'est pas d'exagération, ce n'est pas un scénario de film, c'est l'extrême où peut arriver une situation de crise économique, une situation de récession. Alors la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui fait qu'un musulman ait lui aussi peur de sa situation financière? Alors que si on parle d'une personne qui n'a pas la foi en Allah, qui n'a pas la confiance en Allah, il est tout à fait normal, il est compréhensible que cette personne craigne cette situation de crise. Parce qu'elle ne sait pas c'est quoi un khalif, un créateur. Elle ne sait pas que le créateur est Arhamar Rahimin, qu'Allah Ta'ala c'est Ar-Razzaq qui donne les biens, qui donne la subsistance, la nourriture. Cette personne qui n'a pas le iman n'a pas la notion du taqdir, du destin. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y a des musulmans qui se retrouvent eux aussi dans une situation similaire, qui fait qu'ils ont peur de devenir pauvres par rapport à la situation critique et celle qu'on vit depuis deux ou trois mois? Le problème, on peut résumer cela en deux points. Premier problème, c'est que malgré le iman qui se trouve dans nos cœurs, nous nous projetons trop dans l'avenir. Ça, c'est le problème. On ne se suffit pas de notre rosée du jour, mais on se projette dans le mois de la fin d'année, le mois de décembre, comment ce sera, la reprise 2009, le premier semestre, le deuxième semestre, dans 10 ans, comment sera ma situation dans 20 ans, lorsque je serai à la retraite. Et ça va même plus loin. Qu'est-ce que je vais léguer à mes enfants, à mes petits-enfants? Nous nous projetons tellement, mais tellement dans l'avenir, ce qui fait qu'il y a une angoisse qui naît naturellement en nous. Nous nous mettons nous-mêmes dans une situation de stress par rapport à la conjoncture économique, parce que ce qui nous importe, ce n'est plus de savoir si nous allons vivre correctement aujourd'hui ou demain, mais nous planifions notre vie comme si elle allait durer des siècles et des siècles, jusqu'à planifier la vie de nos enfants, les ressources de nos petits-enfants. Ça, c'est le premier problème qu'on appelle en arabe « tawlul amal ». Deuxième point, non, ça reste la même problématique, également, nous avons trop d'attentes de ce dunya. Nous attendons beaucoup trop de ce dunya et nos cœurs sont trop attachés avec les biens de ce monde. Et la source du problème, elle est où? Le fait que nous sommes persuadés que c'est nous qui faisons de l'argent. Ça, on entend souvent des gens dire, l'argent fait un problème, à nous il fait l'argent. Non, personne ne fait de l'argent. Ce n'est pas notre travail qui nous apportera plus ou moins de subsistance. Mais maintenant, si notre confiance, elle est placée sur nos efforts, sur notre investissement, sur nos choix commerciaux, évidemment qu'on va avoir peur. Parce que si on s'est trompé dans nos choix, ben, on se dit que je me suis moi-même précipité dans la faillite, ou c'est à cause de moi que ma société a coulé, je n'ai pas su investir dans les produits phares, comme on pourrait dire. Et l'autre problématique, l'autre source du problème, c'est quoi? C'est que nous avons ce yakin faussé, cette confiance, cette conviction erronée, que c'est de l'homme dont viennent les décisions. Même si j'ai bien investi, même si mon épargne en banque est solide, mais si un trader ou un golden boy n'a pas su investir ce qu'il fallait, si quelqu'un a fait perdre 2 ou 3 millions ou 4 millions à ma banque, dans ce cas, mes fonds ne seront plus crédités. Si nous avons cette conception de l'économie, cette conception des choses qui ne doit pas être celle du musulman qui a la foi en Allah, alors effectivement, nous allons vivre dans une spirale d'angoisse. Lorsque le prix du pétrole va augmenter, nous aurons peur. Lorsqu'on va obtenir 15 centimes, nous serons tranquillisés. Et la tranquillité du musulman ne doit pas dépendre du cours du pétrole, du cours de l'or, ou de la montée ou de la baisse de certaines actions, du CAC 40 ou autre chose. Mais sa quiétude, son format anina, provient de sa confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne qui agit, comme on vient de le dire, avec cette confiance totale sur ses actions, sur ses investissements, sur le fait que ses biens viennent de ses propres efforts et non pas d'Allah ta'ala, alors cette personne, ça c'est les paroles des grands ulama, cette personne sera éprouvée par 5 choses. Il y aura 5 problématiques qui seront récurrentes, qui reviendront en permanence dans la vie de ce musulman. Première chose, ce musulman aura du mal à faire les bonnes actions. Parce qu'elle n'a pas le toilette dans son cœur intérieurement, elle n'a pas ce désir d'accomplir des bonnes actions. Car son iman, sa confiance, c'est sur ce qui est palpable. 500 euros, ce billet de couleur mauve, je le vois. Je peux le toucher, je constate la couleur et je ressens ses bienfaits. Donc j'ai mon yakin, ma confiance, elle est sur ce qui est palpable. Et la conséquence directe, c'est quoi? C'est que ma confiance en Allah et ma foi en l'invisible, al-iman bil-ghayb, diminuera de jour en jour. Donc, le fait de croire aux promesses d'Allah et le fait de craindre la punition d'Allah en cas de désobéissance ou de manquement à des obligations, cela disparaîtra de jour en jour. Et la conséquence directe également, c'est que nous aurons une vie remplie de chagrin. Car travailler, c'est investir, être dans le commerce ou autre chose, il y a des fluctuations permanentes. Il y a des mois où on gagne, il y a des mois où on gagne moins. À chaque fois qu'on va perdre, ben on sera tristé. Et quand on va gagner, on sera content. Donc nous n'aurons jamais, une stabilité dans nos sentiments. Nous serons toujours comme une plume qui est portée par le vent, car notre confiance sera basée uniquement sur notre travail, ou alors sur le coût du pétrole ou autre chose, et non pas sur la croyance et la certitude sur le fait qu'Allah Ta'ala accorde le rosier. Également, la conséquence directe, c'est quoi? Quand on n'a plus confiance en Allah, qu'on ne croit plus au destin, on ne croit plus au fait que c'est Allah qui donne le rosier, et que nous croyons qu'à ce que nous voyons et que nous pouvons palper, donc le cœur deviendra dur. C'est ce qu'on appelle en arabe « qaswat al-qulub ». C'est quoi « qaswat al-qulub » ? C'est atteindre un tel degré de chute dans le iman, parce qu'on ne peut même plus appeler ça iman, ce qui fait que les ibadats deviennent lourds, et même si on accomplit les ibadats, ces actes d'adoration n'ont pas d'influence sur notre iman. Malgré le fait que nous soyons assidus à nos salades, ces zakats et autres ibadats ne nous accordent rien en termes de confiance en Allah, en termes d'amour pour Allah et d'amour pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si nous écoutons centaines et centaines de discours, de bayan, de khutbah, cela ne changera rien car le cœur est durci. Et ça c'est une situation extrêmement grave. Et cela peut concerner une personne qui est à la tête d'une grande entreprise qui emploie 1000 personnes, comme une personne qui a la tête d'un petit commerce de coin, une boutique, ou une personne qui a un stand dans la semaine commerciale, le simple fait d'être forain, nous pouvons soit avoir la confiance totale en Allah, ou la confiance totale en nous-mêmes. Personne n'échappe à ces deux cas de figure. Maintenant, dans votre cas de figure, le musulman qui travaille, qui obtient son rosier, mais qui a une confiance inébranlable en Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui ne mise pas tout sur ce dunya, et ce qui peut l'apporter, alors cette personne aura le raghba. Par opposition à notre cas de figure, elle aura l'envie d'accomplir les bonnes actions, car elle sait pertinemment que je ne travaille pas pour vivre une vie de roi, ou une vie de noble ou de riche, mais je travaille parce que c'est une obligation religieuse, Mais mon objectif final, c'est quoi? C'est préparer ma rencontre avec Allah. Et ça, c'est extrêmement important. Celui qui a intériorisé ça, il sait que je vis dans ce dunya. Je travaille parce que c'est un ordre, de travailler pour obtenir son pain quotidien, son rosi. Mais l'objectif final, la finalité de ma vie, c'est quoi? C'est préparer ma rencontre avec Allah Ta'ala. Ce musulman-là, c'est lui qui est le grand vainqueur. Parce qu'il travaillera comme vous et moi. Il aura peut-être une entreprise similaire à la vôtre, voire supérieure ou moindre. Mais la tranquillité du cœur qui habitera le qalb, le cœur de cette personne, ne sera jamais comme la vôtre. Car son cœur est automatiquement lié avec Allah Ta'ala. Et cette personne aura le qana'a. Elle se contentera de peu. Si ce mois-ci, j'ai eu 3000 euros de bénéfices, alhamdulillah. Si ce mois-ci, ça a été plus dur, il y a eu 1000 euros ou un peu moins, alhamdulillah. Tout vient de la part d'Allah. Mon objectif, ce n'est pas de cumuler les biens, mais c'est de vivre sainement, correctement, et de préparer ma rencontre avec Allah Ta'ala, de préparer ce moment crucial qu'est la mort. Ça, c'est le musulman intelligent qui travaille, mais avec les convictions religieuses qu'il faut. Car, dans un hadith, le prophète dit « Ar-raghbatu fi dunya » aimer ce dunya, être attaché avec les biens de ce monde, cela augmente la tristesse et le chagrin pour les raisons qu'on vient de dire. Alors que alors que la personne qui ne s'attache pas 100% dans les biens de ce monde, son cœur sera toujours apaisé. Deuxième source de notre crainte par rapport à la situation économique qui ne devrait pas avoir lieu, c'est le fait que, malgré le fait que nous soyons musulmans, nous n'avons pas réellement de conviction, de croyance sur le destin, à ta'dir. Nous savons que le destin existe, le bien, le mal vient d'Allah, on l'a appris, malgré ça, nos enfants l'apprennent, mais on n'a pas compris la réalité. On ne va pas redévelopper ce qu'on avait déjà fait avant, ça a été assez long, mais la personne qui n'a pas de confiance réelle en Allah, subhanahu wa ta'ala, qui ne croit pas en Allah et sur le fait qu'Allah a distribué le rosi, la subsistance, cette personne n'aura jamais la tranquillité du cœur. Hadith d'Abu Darda, « وَمَا بَلَغَ الْعَبْدُنْ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ » On cite en français, « Une personne n'atteindra jamais la réalité de la foi tant qu'elle ne saura pas que ce qui ne lui était pas destiné, ben il ne l'aura jamais ça. » Si Allah n'a pas écrit pour vous d'être riche, vous ne serez jamais riche. Il n'y a pas de quoi être triste. وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَ et ce que Allah, je vais faire son contraire, et ce que Allah a écrit pour vous, vous l'aurez c'est sûr. Avec les efforts que vous allez faire, ou avec moins d'efforts, vous aurez que ce que Allah Azza wa Jal a déjà prescrit pour vous dans votre destinée. Et dans un hadith très connu, il est dit que lorsqu'un bébé, ça s'appelle pas encore un bébé, lorsqu'on est dans le ventre de notre père, on est encore à l'état de fœtus, à l'âge de, ça s'appelle l'âge de 40 jours, Allah Ta'ala envoie l'ange, et l'ange écrit telle chose, et entre autres, l'ange écrit notre rosi, le rizq, combien cette personne va consommer, quelle sera sa subsistance durant ses 60 ou 70 ou 80 années de sa vie. Et cette confiance en Allah, elle doit être permanente dans le cœur du musulman. Car le prophète m'a dit que l'ange de la mort ne vient pas prendre l'âme d'un musulman tant que l'ange ne sait pas qu'Allah Ta'ala a donné tout le rosier à cette personne. Tant qu'on n'a pas consommé tout ce qu'on avait à consommer comme nourriture sur ce dunya, l'ange de la mort ne reprendra pas notre âme. Si on a cette confiance, alors nos craintes par rapport à la situation économique, wallahi, soit elles changeront, soit elles diminueront, soit elles disparaîtront complètement, car notre confiance en Allah et le fait qu'Allah est le Raziq et le Malik, ce sera total. Alors qu'on comprenne bien, hein, ça n'existe pas de gagner plus ou de perdre. On n'a que ce qu'Allah a écrit pour nous dans notre rosi, dans notre subsistance. Deuxième point abordé, c'est ce qui distingue le musulman dans cette situation de crise. Qu'est-ce qui distingue le musulman? C'est sa confiance en Allah. Et dans un verset du Coran, Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Ok. Et Allah Ta'ala dit également وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui a la réelle confiance en Allah, Allah Ta'ala lui ouvrira toujours un chemin. Et Allah Ta'ala lui donnera sa subsistance. Et cela peut être par un intermédiaire qu'il ne soupçonnait même pas. Nous, on se base sur notre revenu mensuel, mais Allah Ta'ala peut envoyer le rosier d'une autre manière. Et celui qui a la confiance en Allah, Allah Ta'ala suffit largement et amplement à cette personne. Et jamais notre confiance sera sur l'inflation, récession, hausse des prix, baisse des prix, même s'il y a un boom économique, il y a une reprise du pouvoir d'achat, même ça, notre confiance ne sera pas basée sur ces choses-là. On aura cette conviction, comme Fassan a dit, « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله » Si vous aviez réellement confiance en Allah, comme il se doit, Allah Ta'ala vous aurait nourri, comme ces oiseaux qui quittent leur nid, le ventre vide, et qui reviennent le ventre plein. Les mufassirin, les muhaddithin disent, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'Allah Ta'ala nous aurait nourri si on restait sur notre canapé, à la maison, sans travail. Non, c'est que cette personne, si elle avait confiance en Allah, Allah Ta'ala lui aurait fait trouver ses asbab, les intermédiaires pour obtenir son rosier. Elle trouvera quel moyen pour gagner son pain quotidien, sa subsistance. Et cela l'évitera de tomber dans ces spirales d'angoisse. Troisième point essentiel, deuxième caractéristique du musulman, de la personne qui a iman par rapport à celle qui n'a pas iman dans sa situation de crise. Nous avons intérieurement la notion de baraka. C'est quoi la baraka? La baraka, c'est la bénédiction dans la subsistance. Demandez à un golden boy ou un trader, c'est quoi la notion de baraka? Vous dites, c'est du n'importe quoi. Pour lui, l'euro, un euro, c'est un euro. Un plus un égale deux. Un, ça n'aura, c'est deux euros ici ou deux dollars, ce sera la même valeur hein, selon les pays. Mais jamais il n'aura la conviction, la croyance sur la notion de bénédiction dans le pain quotidien. Pour lui, c'est des affabulations. Mais analysez-vous-même, combien de personnes, ils obtiennent des sommes, mashallah, assez exceptionnelles en fin du mois, mais ils ne jouissent pas de leurs biens. Et combien de personnes gagnent peu, mais ils profitent de leurs biens. La notion de baraka, c'est quoi? Qu'on comprenne bien, pour résumer la chose, que baraka n'est pas synonyme de plénitude, de profusion. Voilà, baraka n'est pas synonyme de profusion. C'est pas parce qu'on a beaucoup qu'on aura baraka. C'est pas parce qu'on a beaucoup qu'on aura baraka. Si on avait le temps de leur expliquer le sens du doua, bismillah et wala barakatillah, pour qu'on comprenne bien c'est quoi la baraka. Et analyser l'histoire du Prophète sallam qui donne des centaines de sahaba manger d'un bol ou d'un récipient, ça c'est la réalité du baraka que nous avons intérieurement en nous. Même si je n'obtiens que 1000, 2000 euros à la fin du mois, j'ai la conviction qu'Allah Ta'ala mettra la bénédiction dans ces choses-là. Et voilà, et pour conclure, qu'est-ce qui fait obtenir la baraka, la bénédiction de notre revenu? Premièrement, travailler de manière halal. Travailler de manière licite, comme Allah dit au Coran, « Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba » Et Abu Huraira dit, Allah Ta'ala a rendu haram le paradis pour la personne qui s'est nourrie de choses qui sont haram, que ce soit nourriture ou entrée d'argent qui ne sont pas conformes à ce qu'Allah a demandé ou qui rejoignent ce que Allah Ta'ala a rendu, a décrété haram. Et même si nos revenus sont énormes par rapport à ces revenus illicites, nous n'obtiendrons jamais la baraka dans ces revenus. Alors nous réciter une parole exceptionnelle de Abu Layth al-Samarqandi qui dit comment faire pour que notre rosier devienne mubarak, mais le temps ne le permet pas. Maintenant on aimerait passer un dernier message à tous nos frères qui donc participent à cet événement commercial, à cette foire commerciale, cette semaine commerciale. Qu'est-ce qui vous apportera beaucoup de bénédictions dans votre rosier? C'est le fait que ce travail pour obtenir le rosier, parce qu'on aurait aimé développer également, qu'un rosier est béni à partir du moment où on a transpiré pour l'obtenir. Ça, c'est un principe. Si vous travaillez pour obtenir votre rosier, alors ce rosier, Inch'Allah, il y aura baraka. Mais qu'est-ce qui fait que ce rosier, cette subsistance sera bénie par Allah? Le fait que ce travail ne soit pas entaché par quelque chose de haram, ou que ce travail ne vous pousse pas à avoir un manquement des obligations envers Allah. Le message est clair, tirer le prétexte de travailler pour rater une salat. Ne pas se dire que si je quitte mon stand, qui va veiller mes marchandises? Je ne peux pas faire la salat. Si on peut se joindre à la jamaat, khair wa ni'ma. Si on n'a pas la possibilité, c'est effectivement, il faut être réaliste, si on est à trois sur une table, si les trois ils vont faire un arrangement jamaat, il y a un réel problème de sécurité et d'autres choses. Dans ce cas, se relayer. Mais ne jamais rater une namaz, une salat, sous prétexte de pouvoir travailler. Car même si l'argent entre dans vos poches, cet argent ne sera jamais béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous annonce cette bonne nouvelle que parmi les personnes qui entreront au paradis sans rendre compte le jour de Qiyamah, c'est ce i'lan sera lancé. Aïna al-ladina, c'est pas le ayat du Coran, c'est un hadith. Aïna al-ladina, la tulhihim, tijaratun wa la bay'un an dhikrillah wa iqam al-salah. Où sont ceux? Où sont ces personnes dont les activités, le commerce, la vente et les achats ne les perturbent pas dans l'accomplissement de la salat, de la zakat, etc., etc. Et yakhafuna yawma, ils avaient la crainte de la résurrection, la crainte de ce jour où ils seront présentés auprès d'Allah. Si quelqu'un a une activité professionnel, voire commercial, mais malgré cela, cette activité ne le perturbe pas d'aller devant vers Allah, principalement la salat, sachez qu'Allah vous destine les plus hauts degrés dans le paradis. Et puis regardez, on aurait aimé citer, mais comme d'habitude, le temps nous fait défaut, il y a un grand économiste du nom de Vincent Beaufils qui a fait l'éloge du système économique, du système financier de l'islam, en comparant, on ne fait pas de politique ni d'économie, en comparant le système économique, je ne dis pas de pays, outre-Atlantique, comprenez, avec le système économique européen, il dit que ce qui différencie les deux, c'est que le système économique, outre-Atlantique, se base trop sur la spéculation. De quelle manière? Ils sont capables de vendre un conteneur de tomates avant même d'avoir planté les grains, des graines. Ce qui est interdit en islam, ce qu'on appelle « bay'u ma la tamlik », vendre ce que vous n'avez pas encore, acquérir. Alors qu'il cite, hein, on ne va pas citer tout par rapport au temps, il dit que si l'Occident s'était un peu plus inspiré du système économique islamique, d'accord, apporté par Mahomet, qui date certes du 7e siècle, mais qui est tellement d'actualité, alors jamais il n'aurait connu des situations de crise, car l'islam interdit l'intérêt et la spéculation, ce qui fait que ceux qui ont respecté ces principes ne se retrouvent pas aujourd'hui dans une situation de crise. Et puis deux points pour terminer, ça c'est nos efforts pour gagner notre rosie. Et puis il y a deux choses qui ne sont pas de nos mains. La première chose, c'est lorsque le Qiyamah arrivera, il y aura une famine et un manque d'argent dans le monde entier jusqu'à l'arrivée de l'imam al-Mahdi. Ça, c'est pas dans nos mains. Et puis, le fait que la barakat vient lorsqu'il y a la justice totale sur la terre, comme c'était l'époque de Omar ibn Abdel Aziz, où on ne trouvait plus personne pour prendre la zakat ni la sadaqa. Donc, pour résumer, on a vu aujourd'hui que la confiance du musulman qui travaille, qui a en même temps les efforts pour obtenir son rosi, se soit confiant d'être en Allah et ne doit pas craindre les fluctuations du marché, car il sait qu'Allah est razik. Malik et il est Arham al-Rahimin, wa ma tawfiq illa billah. On demande à Allah beaucoup de bénédictions dans le commerce, dans le travail de nos frères musulmans et de tout le monde, ceux qui travaillent de cette semaine commerciale et les commerçants d'une manière générale, et qu'Allah renforce notre yaqin en lui et notre relation avec lui. Et puis, dernier appel, le mutawalli a tenu à ce qu'on le dise, vous savez, lorsque le khutbah commence, on n'a pas le droit de parler. Et ça, c'est grave. C'est extrêmement grave parce que nous avons la malédiction des anges. Si au moment où le imam fait le khutbah, que ce soit moi ou n'importe qui, quand l'imam fait le khutbah, c'est comme la salat. On n'a pas le droit de parler. Comme il est inconcevable de parler pendant les deux premières rakat de Zohar ou de la Fab, il est de même inconcevable, inacceptable qu'un musulman quitte sa maison. Il vient, il fait son wuzu et il va discuter avec ses amis sur le banc. C'est un grand péché et vous annulez de la sorte votre récompense du Jumu'ah. Donc écoutez le khutbah qui est court en général. Écoutez le khutbah en silence et avec concentration qu'Allah nous récompense. Subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.